fois qu'elle était dans le cadre, j'étais aux anges. Parce que ça me rappelait ces ambiances des films des années 60, dans le milieu de la petite bourgeoisie, vous savez. Le mari, alors dans le rôle du mari, je voyais François Hollande, a invité à dîner un collaborateur qui est en même temps un concurrent pour la direction de la filiale régionale d'une grosse boîte. Bon, c'est Nicolas Sarkozy, le collabo, enfin sans mauvais esprit. On sent que c'est le mari qui va avoir le poste, mais il y a un obstacle, un collaborateur ambitieux qui voudrait aussi la place. Alors il l'a invité pour le jauger et pour le réfréner dans ses ambitions, pour le calmer, pour le maîtriser en fait. Et sa femme, en parfaite hôtesse, a organisé le repas. Il assiste bien sûr, mais elle s'ennuie. Elle est là sans être là, elle est ailleurs et c'est ce qui m'a plu chez elle. La bataille de chiffres des deux affairistes, leurs arguties, elle s'en fout royalement, c'est comme moi. Elle s'ennuie, mais elle a le sens des convenances. Alors elle sourit aux saillies de son mari, découvre l'ambition du rival d'un regard un peu interdit, tout en lui souriant de temps en temps, courtoisement. Elle est vraiment à sa place dans ce cadre, parce qu'elle est charmante en plus. Un physique très agréable, une tenue sobre, mais qui met en valeur sa féminité. Et de temps en temps, elle intervenait comme pour passer les plats. Par contre, bien sûr, on se demande comment elle est arrivée au poste qu'elle occupe. Parce qu'on se dit qu'il doit falloir intriguer pour faire le 20h de TF1. Ça, on le sentait chez Chazal, le pauvre d'Arvor, Christine Ocrente. Mais elle, c'est pas du tout ce genre-là. Elle donne pas l'impression d'avoir les dents qui rayent le parquet, comme on dit. Elle a l'air très gentille. Je me souviens d'ailleurs comment elle fut surprise naguère de la violence des réactions de Sarkozy à propos de son salaire ou des révélations du fils de Kadhafi. Laurence Ferrari, c'est une fantastique erreur de casting. Mais c'est en même temps ce qui a fait que pour moi, c'était elle, dans son rôle de parfaite hôtesse, qui ramenait le débat à sa véritable dimension. Un repas de notables, de cadres on dit plutôt de nos jours, dont chacun cherche à prendre la mesure des ambitions de l'autre pour l'écarter de son chemin. Elle avait même invité son cousin, Pujadas, à qui elle a promis que son mari allait lui trouver une place. Et lui, il était ravi, jovial, restant à sa place pour ne pas justement prendre le risque de la perdre. Et vers la fin du débat, et je vous promets que c'est vrai, j'attendais le moment où Laurence Ferrari allait se lever en disant « Et si nous passions au salon pour prendre le café ? David, tu peux apporter le sucre ?» Et tout le monde aurait suivi et le débat aurait continué jusqu'à ce qu'elle l'interrompe par ces mots. C'est pas que je m'ennuie, mais il se fait tard, en pensant bien sûr exactement l'inverse. Ah, dommage qu'elle soit pas libre, Laurence Ferrari. Je l'aurais épousée, c'est la femme parfaite. Ça, je vais avoir les féministes sur le dos.
Un seul message aujourd'hui dans le répondeur de la voix si j'y suis. Ouais, il y a eu tellement de commentaires depuis hier soir qu'on a choisi seulement celui-là de notre Claude à nous. Alors aujourd'hui, eh ben, on va poser des questions. qui finalement n'ont pas été posées hier, ça peut paraître incroyable, qui n'ont pas été présentes dans le fameux débat, la question des paradis fiscaux. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru dans les couloirs, chers AMG. La question des paradis fiscaux, plus précisément la question de l'évasion fiscale. C'est une énorme histoire que vous connaissez déjà un peu, plus ou moins, mais un livre vient de sortir ces semaines dernières, ces jours derniers, signé d'Antoine Payon, intitulé « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Et c'est tout à fait formidable parce que on nous parle évidemment avant tout de réduire la dette, et les moyens pour réduire la dette sont bien connus, c'est la règle d'or, c'est la rigueur budgétaire, c'est le plan de stabilité, c'est-à-dire, on le voit en Espagne par exemple et ailleurs, c'est-à-dire la réduction des budgets de santé, d'éducation, de retraite, c'est-à-dire l'assouplissement du code du travail, c'est-à-dire les menaces sur la sécurité sociale, etc. Et pourtant, chaque année, à cause des paradis fiscaux, l'État perd 30 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois le déficit de la sécurité sociale. On le dit, on le répète et on l'oublie. On oublie et visiblement, nos candidats l'oublient un peu ou mettent ça de côté. Selon Antoine Payon, l'auteur de ce bouquin, l'évasion fiscale est responsable des 600 milliards qui manquent à la France. Ces scandales sont connus, tout comme les noms des évadés fiscaux, la plus célèbre étant Liliane Bettencourt, non pas Ingrid la pauvre, mais Liliane Bettencourt, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça ne se limite pas aux particuliers, aux riches particuliers, mais c'est aussi des grandes entreprises, des grandes multinationales, beaucoup d'entreprises du CAC 40, beaucoup des amis de monsieur Sarkozy qui était il y a 5 ans au Phuket font partie de ces évadés fiscaux. Alors il semble que le vent soit un peu en train de tourner après les mesures assez sévères prises aux États-Unis. En France, on commence quand même à se poser quelques questions et Antoine Payon a donc enquêté surtout autour et même à l'intérieur de la banque la plus prestigieuse en matière de gestion de fortune, qui est UBS. Nous revoilà, oui, nous revoilà en Suisse, même si on va plutôt s'intéresser à la présence de cette grande banque en France. Alors la question qu'on se pose, c'est tout le monde sait ce que je vous dis là, à commencer évidemment par les services intéressés, les services français, toutes sortes d'institutions qui ont pour fonction de lutter contre la fraude fiscale. Tout ça est connu, les intéressés et les évadés, c'est-à-dire les fraudeurs, sont connus, le système est connu, mais pourtant ça bloque. Ça bloque au niveau du parquet, ça bloque au niveau du gouvernement français. Et bien sûr, c'est là que la question se pose. Pourquoi, comment, voilà pourquoi nous allons passer cette heure avec Antoine Payon, avec des témoins autour de ce thème de l'évasion fiscale. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Quand je serai fatigué, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chante Francis Cabrel. C'est un renseignement généreux pour toi, ton équipe et les amis à propos de Christine. Christine est une AMG fidèle qui ne rate que peu d'émissions. J'ai découvert Christine au hasard d'un déplacement en Haute-Savoie. Elle tient depuis 20 ans un chalet hôtel de 8 chambres à la sortie de Saint-Gervais. Et c'est elle qui m'a parlé de l'émission lors du petit déjeuner. Elle avait particulièrement apprécié le sujet sur le plan de bataille des financiers et voulait le faire savoir. Son hôtel La Marmotte n'est pas étoilé, donc simple mais confortable, et figure chaque année dans le guide du routard. Il attire plutôt une clientèle de randonneurs. Je te donne le numéro de téléphone de La Marmotte, 04 50 93 42 76. Ça fait chaud au cœur de croiser une AMG quand on ne s'y attend pas.
Salut les AMG! Premier jeudi du mois, le repère de Perpignan se réunit au Café du Centre, avenue du Lycée, à 18h30. À ce soir.
Salut les AMG de Haute-Loire, c'est Émilie du Café Repère du Puy, en Velay, pour vous annoncer que ce soir, jeudi 3 mai, se tiendra notre repère de 20h à 22h au Café culturel Le Goût du Monde, rue Saint-Jacques, au Puy, sur le thème de l'agriculture. Quel avenir pour nos paysans et pour notre alimentation. Alors nous vous attendons nombreux. À très bientôt. Pour plus d'infos, vous pouvez nous écrire amg-haute-loire@hotmail.fr. À bientôt, bye bye.
C'est un facteur très important de ce qui est relevé par tous les économistes maintenant depuis quelques années, mais surtout ces toutes dernières années, qui est la croissance des inégalités. D'un côté, une croissance extraordinaire de l'hyper-richesse, parce que l'évasion fiscale est un outil d'augmentation de la richesse.
L'évasion fiscale, c'est le fonds de commerce de la Banque Suisse. Ils vivent de ça depuis des siècles. Ils vivent de nos impôts. Il faut que la Suisse arrête de nous voler. Il faut leur rentrer dedans.
Et puis dans le feuilleton Liliane Bettencourt, il y a ces informations communiquées hier par un banquier suisse dont on ignore l'identité. Selon lui, la femme du ministre Eric Woerth a été presque à demeure à Genève où elle gérait les comptes bancaires de l'héritière de L'Oréal.
Prenons un exemple, l'Espagne, la Grèce, l'Italie seraient dans une des situations bien moins graves qu'ils connaissent en ce moment s'ils avaient plutôt lutté contre l'évasion fiscale au sein de leur propre pays, c'est une évidence.
L'évasion fiscale, toute confondue, est certainement un manque à gagner de 30 à 40 milliards d'euros chaque année.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, de l'argent, il y en a, carnet de lait et fichier vache.
Flight number 2, arriving from New York.
Les paradis fiscaux.
Nicolas Sarkozy.
Dans le communiqué, vous verrez une phrase.
2 avril 2009.
Que je cite entre guillemets, « Le temps du secret bancaire est révolu ». Je distingue principe. Le temps du secret bancaire est révolu. Il faut en finir avec les paradis fiscaux.
23 septembre 2009.
Car nous n'avons pas à tolérer les lieux où se cache l'argent de la spéculation, du crime et de la fraude.
À quoi sert-il, et je le dis à nos compatriotes, de faire des règles dans notre pays ?
24 septembre 2009.
Si des grandes banques, dans notre pays ou ailleurs, peuvent avoir des filiales dans des paradis fiscaux qui s'exonèrent des règles prudentielles qu'on essaie de faire respecter chez nous. Il n'y a plus de paradis fiscaux.
En 6 mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux.
1er décembre 2009.
Extraordinaire. Comme je vous l'avais promis en 2009.
6 janvier 2010.
Nous avons mis fin au scandale des paradis fiscaux.
Nous ne voulons plus de paradis fiscaux.
4 novembre 2011.
Le message est très clair. Nous n'en voulons plus. Et les pays qui demeurent des paradis fiscaux avec la dissimulation bancaire seront mis au banc de la communauté internationale.
Les enfants rigolent, c'est Pinocchio qui nous parle. Bien évidemment, les paradis fiscaux se portent très bien. Chaque année, à cause des paradis fiscaux, l'État perd 30 milliards d'euros, 2 fois le déficit de la sécurité sociale. Les paradis fiscaux se portent bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'évasion fiscale. Pour qu'il y ait évasion fiscale, il faut qu'il y ait paradis fiscaux. Et l'un des plus vieux paradis fiscaux, eh bien, c'est notre voisin, la Suisse, notre voisine, la Suisse, qui se porte très bien, qui continue d'être le coffre-fort du monde, de l'Europe en tout cas, et qui prospère et qui ne peut pas vivre autrement que par cette activité essentielle qui est l'activité bancaire, légale ou non. Non, pour ce qui concerne l'enquête d'Antoine Payon, ces 600 milliards qui manquent à la France, où il révèle, il y a des révélations dans ce bouquin, même si l'évasion fiscale a fait l'objet auparavant, déjà depuis plusieurs années, d'études et de dénonciations diverses et variées, notamment autour de la banque UBS qui s'est implantée en France en 1999 ou 2000, je crois, à cette fin, à la fin de draguer des fortunes françaises, fortunes, soit des fortunes de particuliers, soit aussi des biens, des avoirs de grandes entreprises ou de grandes multinationales, afin de faire de l'optimisation fiscale. Ouvrez un compte chez nous, vous serez bien traité, etc. Et puis là, il y a un deuxième temps où l'optimisation fiscale, c'est finalement de ne pas payer d'impôts du tout. Pas seulement, parce que une fois que ces avoirs sont dans cette banque, eh bien, l'argent ne dort pas, l'argent travaille à hauteur de 6, 7, 8%, c'est donc très très juteux. Donc voilà des sommes considérables, dont Antoine Peillon va nous parler, qui sont soustraites eh bien, au trésor français, au fisc français, soit directement par le fait que ces fonds, ces avoirs échappent complètement, mais aussi sur les intérêts qui sont versés sur ces comptes, à ces évadés fiscaux, et puis aussi qui échappent à l'impôt sur la fortune, et puis également c'est de l'argent qui pendant ce temps-là est moins investi, voire pas investi dans l'économie réelle. C'est donc un manque à gagner considérable à une époque comme celle que nous vivons, celle de l'époque de la crise, l'époque de la dette, face à laquelle nous devons tous faire face en se serrant la ceinture et en acceptant la rigueur parce que nous avons trop dépensé. Alors il faut que la France, maintenant, fasse un régime d'amaigrissement qui se traduit par un amaigrissement, entre autres, notamment des budgets sociaux, sur la santé, sur l'éducation. Il en a été question hier soir dans le débat sur, jusque en Espagne par exemple, sur la modification du code du travail de façon à libéraliser, assouplir le travail, etc. On voit tous les dégâts sociaux entraînés par cette crise, alors que de l'argent il y en a. Encore une fois, je ne vous révèle rien, je ne vous apprends rien. Tout cela, on le sait depuis fort longtemps. On a fait des émissions sur les paradis fiscaux il y a bien longtemps. Et régulièrement, les uns et les autres, nous revenons sur ce thème. Des personnalités comme Eva Joly s'est fait vraiment un combat, une croisade permanente contre les paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux, en dépit des rodomontades comme celles qu'on vient d'entendre, sont toujours là. Toujours là, sauf que malgré tout, aux États-Unis, on voit que le gouvernement américain prend un certain nombre de mesures, et contre les banques qui se sont spécialisées, elles sont très nombreuses, dans l'évasion fiscale, et contre les évadés fiscaux eux-mêmes, c'est-à-dire ces fraudeurs, si bien que ça va être de plus en plus difficile pour les autorités européennes et les autorités françaises de bloquer, de faire croire qu'on fait quelque chose et surtout de ne rien faire, car il y a, selon Antoine Peillon, une indéniable connivence entre les fraudeurs et le pouvoir. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, de l'argent. Il y en a, carnet de lait, fichier de vache.
J'ai des hassenettes pour le paradis fiscal. Piscine hibiscus, excusez mon mode de vie scandale. Mon angora s'appelle Britannicus. Là-haut sur la côte, ma vue, les vagues, les aigles me draguent, les journalistes me soufflent à l'oreille de jolies phrases. Mon cuisinier, mon palefrenier ne voit décoller pour les îles Vierges aucun mandat, aucune charge. Transit par disque dur, je palpe chaque jour en taux d'intérêt. De quoi refaire la toiture du musée d'Orsay. J'ai un bateau taille réelle dans le salon de ma baraque au bord du lac Léman. Je suis le Mozart de l'usure. Ma caillasse s'attire la thune sûre. Contre les ponctions, j'ai X plan B. De nos jours, on aide ceux qui veulent flamber. La chute des riches, est-ce dans les fables? Les notaires savent qui est solvable. Je suis rentier. Mes comptables taffent, on me masse les pieds. Je suis rentier. C'est mon argent que l'on fait travailler. Je suis rentier. J'avais un poil au torse, on me l'a épilé. Je suis rentier.
Antoine Peillon, on va commencer par
le titre de ce bouquin, 600 milliards qui manquent à la France. Qu'est-ce que c'est que ces 600 milliards? Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre et qu'est-ce qu'il veut dire?
600 milliards, c'est l'ensemble des sommes qui, au fil d'à peu près d'une génération, ont été accumulées par les fortunes privées ou les fortunes des entreprises et des groupes sur des comptes bancaires non déclarés. Comptes bancaires non déclarés qui ne peuvent exister que dans les paradis fiscaux. Et parmi tous les paradis fiscaux, pour un tiers de l'ensemble de ces sommes, la Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire non déclaré? C'est extrêmement simple. Non déclaré, ça veut dire que ce sont des sommes issues de revenus qui n'ont pas été déclarées au fisc. Le fisc, quand on déclare ses revenus, prend une part qui s'appelle l'impôt. Quand vous ne déclarez pas vos revenus et que vous les placez sur des comptes bancaires secrets, en quelque sorte, eh bien, vous le faites totalement échapper au fisc.
Donc déjà, d'ores et déjà, c'est un manque à gagner, c'est un manque à rentrer dans les caisses de l'État.
C'est un premier manque à gagner dans les caisses de l'État, qui est celui du manque à gagner sur l'impôt sur le revenu, qu'il soit le revenu personnel ou l'impôt sur les sociétés. Il y a un deuxième manque à gagner, c'est que quand vous constituez un capital, celui-ci produit aussi des revenus. Et en l'occurrence, ces capitaux qui ont été cachés dans les paradis fiscaux produisent des revenus à haut niveau de rendement. Si vous prenez un livret A, vous êtes aujourd'hui à autour du 2%. Vous placez votre argent sur un compte non déclaré en Suisse, il va vous rapporter au bas mot 7,5% de croissance par an. Là aussi, ce revenu non déclaré n'est pas fiscalisé. Donc, deuxième détente de perte pour le fisc. Le troisième niveau, c'est que les capitaux, quand ils dépassent un certain montant, notamment en France, mais c'est valable dans beaucoup d'autres pays, sont imposés au titre de la fortune. Et donc, il y a un troisième impôt qui n'est pas perçu sur l'ensemble de cet argent qui a été placé sur les comptes non déclarés, qui est l'impôt sur la fortune.
Alors, ça représente quoi, ça? C'est ce détournement ou ce manque à gagner pour le fisc français? On a une idée annuelle?
Oui. Pour ce qui concerne strictement les fortunes personnelles, qui est la petite moitié de ces 600 milliards d'euros, on considère que c'est un manque à gagner de 20 milliards d'euros chaque année.
20 milliards pour la moitié, c'est-à-dire sur les fortunes personnelles du showbiz, du foot, voilà, de toutes ces personnalités-là, et d'autres que cela.
Bien sûr, que ce soit des très très hauts salaires, mais très très souvent, plutôt des honoraires, des droits d'auteur, toutes choses qui peuvent se faire payer à l'étranger très facilement sur simples factures, et des factures qui sont émises d'ailleurs par des hommes de paille ou des sociétés écrans. Et donc ça, c'est 20 milliards d'euros pour uniquement cette petite moitié de l'argent évadé chaque année de France. Pour l'autre moitié, le calcul sera différent parce que l'impôt sur les sociétés est sur des régimes en taux et en assiette différents de ce qu'il est pour l'argent des personnes physiques. Mais en gros, on peut estimer que l'évasion fiscale, toute confondue, est certainement un manque à gagner de 30 à 40 milliards d'euros chaque année.
30 à 40 milliards chaque année, selon Antoine Payon, c'est évidemment une somme considérable en des périodes comme celle que nous vivons, où tous nous devons, on voit bien, on se demande bien pourquoi finalement, nous devons nous serrer la ceinture. Nous devons, c'est ce que souhaite, c'est ce que veut et impose le gouvernement, c'est ce que souhaite et impose l'Union européenne, et visiblement c'est ce que souhaite et imposera le pouvoir à venir, si toutefois il change. Donc il y a là une contradiction, il y a quelque chose qui aurait dû peut-être être l'un des enjeux essentiels de cette campagne. La question a été abordée, mais sans grande conviction, même s'il y a, comme je le disais en commençant, cet exemple états-unien, où le gouvernement américain prend des mesures radicales contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux, même s'il y a des paradis fiscaux aux États-Unis. Il y a un État, le Delaware, qui est vraiment l'État paradis fiscal des États-Unis. Mais des mesures sont prises et assez radicales. Toute la question actuellement, c'est la dette. Nos préoccupations tournent autour de la question de la dette. Il y a là probablement un moyen de la réduire.
Ce qui permettrait de réduire la dette, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler rapatrier les fameux 600 milliards et de ponctionner sur ce rapatriement la moitié de ce montant.
Aujourd'hui, ce que vous savez, les autorités françaises le savent aussi bien. On a tout un tas d'instances de recherche, de renseignements, de douanes, de services secrets, etc., qui en savent au moins autant que vous, sans vouloir vous offenser. Pourquoi est-ce que on n'a pas ce courage politique, appelons ça comme ça, que les États-Unis ont pu avoir et ont actuellement?
Alors, la plupart des services de renseignement, d'une part, mais de police judiciaire, de police fiscale, ça existe un petit peu, de la douane, enfin de tous les gens qui sont habilités à contrôler les situations fiscales et économiques, sont parfaitement au courant des montants et des méthodes d'évasion fiscale. On m'a même dit tout récemment que Bercy avait des estimations extrêmement précises et très exactes de ce phénomène.
Donc le travail est fait, les rapports sont faits, les chiffres sont là. Pourquoi est-ce que ça bloque et où est-ce que ça bloque et qui bloque ?
Le blocage m'a été expliqué par des fonctionnaires, voire des hauts fonctionnaires des services que vous avez cités, comme étant explicable par ce qu'on appelle la corruption. C'est-à-dire que ces services sont des services de l'État, et à la tête de l'État, il y a des personnes politiques. Ils mettent en cause très ouvertement les personnes politiques qui aujourd'hui sont à la tête de l'État. Pour être très précis, ils disent que ceux qui se livrent à l'évasion fiscale font profiter de la richesse produite par cette évasion fiscale ceux qui ferment les yeux ou font fermer les yeux à leur administration sur cette évasion fiscale.
Alors, dans votre livre, vous racontez plusieurs exemples, mais l'exemple le plus flagrant et le plus connu auquel tout le monde est en train de penser, c'est le cas Bettencourt.
Il est le cas Bettencourt, il y en a d'autres, mais le cas Bettencourt, il a l'avantage d'être symbolique, spectaculaire, symbolique, parfaitement représentatif du système. Moi, ce que j'en ai vu, d'autres ont publié beaucoup d'autres choses sur Bettencourt, mais moi, ce que j'en ai vu, c'est un mouvement de fonds à hauteur d'environ 20 millions d'euros qui se situe sur un an et demi à la période de la précédente campagne électorale présidentielle et qui est un mouvement de blanchiment d'argent, blanchiment d'évasion fiscale et de retour vers une banque française, la BNP, à partir de laquelle on sait aujourd'hui que des enveloppes de liquide étaient retirées au nom de Mme Bettencourt pour être ensuite distribuées à des personnes politiques. Le nom de M. Woerth est bien connu et M. Woerth travaillait pour une certaine campagne électorale de cette époque.
Le journal suisse parle même d'un Geneva Gate, une pierre de plus dans le jardin d'Éric Woerth.
France 3.
Selon la Tribune, il ne pouvait ignorer que sa femme avait passé les deux dernières années à gérer la fortune de Liliane Bettencourt en Suisse.
3 juillet 2010.
On apprend aussi que Mme Woerth, sa femme, se rendait souvent à Genève pour s'y occuper du family office de Mme Bettencourt. Le family office étant, au fond, la société gérant les biens de Mme Bettencourt.
Jean-Noël Quesnot, journaliste à la Tribune de Genève.
Et puis, on y apprend aussi qu'il y avait eu un transfert, il y a 2 ans, de 280 millions d'euros des comptes français de Liliane Bettencourt auprès de l'UBS Genève.
Ironie, au même moment, Éric Woerth pourfendait dans les médias les évadés fiscaux.
Ce que vise votre bouquin, c'est quand même le chef de l'État actuellement, il faut quand même être clair.
Le nom de Nicolas Sarkozy est explicitement cité dans le livre. Et le bouquin est très peu ambigu sur le sujet. quand on parle du financement de 2007 via de l'évasion fiscale opérée par Mme Bettencourt et qui passe par M. Woerth, on vise, puisque c'est le mot que vous employez, mais c'est pas, j'en choisirais plutôt un autre, mais reprenons le vôtre, on vise effectivement le financement illicite de Nicolas Sarkozy en 2007 pour la campagne présidentielle.
Et actuellement, c'est la raison pour laquelle, selon vous, ça bloque actuellement, même si, encore une fois, des fonctionnaires, encore une fois, des fonctionnaires des services secrets français, le savent parfaitement, ne supportent pas du tout cette situation et vous ont renseigné.
Si j'ai bénéficié de leurs analyses, de leurs informations et même de leurs propres sources, c'est qu'ils ont considéré qu'une limite avait été franchie dans le tolérable républicain. Ils considèrent que l'appareil que représente leur service est totalement dévoyé, dévié, voire dévoyé de sa fonction qui est de protéger l'État, de protéger la nation, de protéger les citoyens. Quand ils s'aperçoivent que leur appareil est au service d'un clan, oui, ils choisissent à un moment donné de divulguer cette situation à des journalistes.
Ma banque est mon amie, elle s'occupe de moi. Ma banque est ma mama et je lui dois ma vie. Ma banque est mon ferment, ma terre est mon sang. Ma banque est le cordon qui guide et me nourrit. Gloire à ma banque, gloire à ma banque, gloire à, gloire à toi.
Alors, on continue avec Antoine Peillon autour de son bouquin « Ces 600 milliards qui manquent à la France ». Vous voyez les conclusions auxquelles il parvient, les cibles qui sont les siennes au terme de cette enquête. Une enquête qui porte autour, je le disais aussi à l'intérieur, d'UBS, la banque suisse, que Ziegler, Jean Ziegler, vous vous souvenez, appelait United Bandits of Switzerland. Alors, tout votre bouquin repose sur une enquête autour de la banque UBS, la banque suisse UBS, l'Union des banques suisses, qui s'est fait quand même, qui est la banque emblématique de cette évasion fiscale, qui s'est installée en France en 1999. Pour, c'est ce que vous démontrez dans votre bouquin, afin de faire de l'évasion fiscale. Pourquoi et qui a conçu ça du côté UBS ?
Du côté d'UBS, la conception d'une évasion fiscale industrialisée, parce qu'elle existait auparavant, mais pas au même niveau, est le fait de la direction générale du groupe UBS, qui, à partir du tournant des années 2000, considère que, vu la difficulté économique dans laquelle se trouve l'ensemble du monde développé et le monde financier, il va falloir passer à un rendement supérieur des activités illicites, parce que ce sont celles qui sont les plus rentables le plus rapidement possible. Et donc, ils mettent en place en France, mais pas seulement en France, c'est valable aussi en Espagne, des succursales dont l'objectif réel, principal, est de récolter l'argent de l'évasion fiscale. Et c'est une mise en place, comme aux États-Unis, dans toute l'Europe, d'un système systématique d'évasion fiscale.
Qui a révélé l'affaire ? Qui a révélé le système en France ? Est-ce que ce sont les salariés ? Qui a révélé ?
La source première, la révélation première, ce sont des salariés de la banque, des commerciaux qui ont été les témoins les plus directs du phénomène et qui ne l'ont pas accepté, et ensuite principalement tous les auditeurs internes qui ont travaillé sur le démasquage des pratiques illicites.
Auditeurs, il faut dire ceux qui pratiquent des audits, hein, je dis ça à nos auditeurs.
Auditeurs internes, les audits internes.
Oui. Alors les auditeurs internes, certains auditeurs internes constatent, prennent conscience de ce système et en font part à leur hiérarchie.
Ils en font absolument part à leur hiérarchie, c'est même
leur boulot.
C'est leur devoir, c'est leur boulot.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand la direction est informée, est en présence de ces rapports, qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est cette direction elle-même qui a mis ça en place.
Dans un tout premier temps, elle tente de faire comprendre aux auditeurs internes qu'ils vont réformer le système, que ce n'est pas la direction générale qui est à l'origine, en fait, du système, et que donc on va mettre bon ordre à tout ça. Mais qu'en échange de cet engagement de mettre bon ordre à ces mauvaises affaires, on demande le silence des auditeurs internes. Dans un deuxième temps, quand on s'aperçoit que ça ne marche pas, parce qu'évidemment, on n'arrête rien du tout, on commence à se montrer menaçant, on essaye d'acheter, on utilise toutes les méthodes traditionnelles pour acheter ou imposer le silence. Et finalement, dans un troisième temps, quand ces méthodes ne fonctionnent toujours pas, eh bien, on liquide, on met dehors, on licencie, voire on traîne au tribunal pour de mauvais motifs les auditeurs internes qui n'ont pas renoncé à dénoncer les malversations et les délits.
Alors, en vous lisant, on est un peu stupéfait par la stratégie d'UBS France pour approcher les personnes fortunées ou les entreprises de façon à, voilà, à faire de l'évasion fiscale. Alors les stratégies sont assez extraordinaires. On met en place tout un système de relations, d'amitié, de flatteries, d'événements concrets ou auxquels on invite les personnes dont on convoite la confiance. Ça peut être des finales de golf ou des concerts ou la loge UBS à Roland-Garros. Et là, une fois que ces personnes sont là, en confiance, en lien véritablement d'amitié avec des personnes spécialisées dans ces relations publiques, arrivent les commerciaux, soit français, soit venant de Suisse, qui vont peu à peu faire comprendre à ces riches clients, d'abord peut-être leur proposer d'ouvrir des comptes tout à fait classiques, normaux, d'optimisation fiscale évidemment, puis ensuite on va passer à l'étape supérieure d'évasion fiscale véritablement. Mais ce qui se passe, c'est les stratégies, parce qu'il faut que tout ça soit fait évidemment sans laisser aucune trace. Ces comptes-là ne figurent pas dans les systèmes informatiques et sont simplement mentionnés sur des petits cahiers qui sont des carnets de lait, c'est ça ?
Carnets du lait. Et fichiers vaches ensuite.
Et fichiers vaches qui reprennent les vieilles habitudes des paysans suisses.
Oui, des vachers suisses dans les montagnes qui tenaient sur des petits carnets leurs comptes, des litres de lait qu'ils récoltaient chaque jour en trayant leurs vaches, puisqu'ensuite ils vendaient ce lait, il fallait qu'ils se fassent payer par ceux qui le récoltaient, les commerçants qui venaient le chercher dans les montagnes, et donc ils tenaient très précisément le compte du nombre de litres récoltés chaque jour. Et puis ils faisaient leur total, et puis à une période donnée, ils se faisaient payer sur la base de ces notations. Les commerciaux suisses, ça s'appelle des chargés d'affaires suisses qui venaient opérer en France, et des commerciaux français qui ont aussi participé au système d'évasion fiscale, tenaient leur comptabilité d'évasion fiscale sur ces petits carnets, puisque ça leur permettait d'échapper à la comptabilité officielle, qui, elle, était évidemment saisie sur ordinateur et ensuite centralisée dans des serveurs informatiques qui, ensuite, ne pouvaient pas être si facilement nettoyés. Alors que le petit carnet, une fois qu'on l'a utilisé, une fois qu'on a fait ses comptes, eh bien, on peut détruire le petit carnet en question et aucune trace ne restera de la récolte illégale de certaines fortunes à destination de comptes non déclarés en Suisse.
Alors, il y a quelque chose qui est marrant, mais quand même un peu choquant, c'est le fichier vache. C'est-à-dire, c'est dans le fichier vache, la vache à lait, c'est la France. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que on dit au départ, quoi. C'est quand même des sommes qui sont soustraites au trésor français, à l'intérêt général des Français, quand même. Et là, c'est assez choquant de penser que la vache à lait, c'est la France.
Appeler ce fichier vache, c'était en fait en référence au carnet du lait. Mais c'est une plaisanterie qui court entre commerciaux et salariés, disons, de la banque en question.
« que l'on impose les très grandes richesses, ceux qui possèdent des châteaux, des palais, ceux dont la vie n'est faite d'allégresse, sans nul souci, ne travaillant jamais. Que l'on impose les archimillionnaires, mais que désormais on laisse à l'ouvrier intégralement l'argent de son salaire, pour qu'il n'y ait plus de misère à son foyer. Au lieu d'imposer le travailleur qui gagne le pain de ses enfants, imposez plutôt les noceurs qui gaspillent tant d'argent. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les peignants. Vous qui voulez qu'on repeuple la France, n'écrasez pas par de nouveaux impôts le travailleur, car alors sa conscience se révolterait contre tous ses bourreaux. Ce que le père peut gagner à l'usine, ça c'est sacré, messieurs, n'y touchez pas. Oui, votre impôt, c'est l'impôt de la famine. Et cette loi, Marianne, fiche-la en bas. Au lieu d'imposer le travailleur qui enrichit le gouvernement, imposez plutôt les noceurs et qu'il paie pour les pauvres gens. Oh oui, la loi qu'il fallait faire, je vous le dis, messieurs du Parlement, c'est pas l'impôt sur les salaires, mais c'est l'impôt sur les peignants.
Ces 600 milliards qui manquent à la France, c'est le bouquin d'Antoine Payon, édité au Seuil, qui amène des précisions et des révélations dans un domaine déjà bien connu, mais qui parvient toujours à rester à la marge, qui reste... enfin, il n'y a pas une prise en considération réelle de l'ampleur de ce qu'il faut bien appeler... disons, une fraude, sinon carrément un crime, en tous les cas une fabrique des inégalités, de l'injustice. Mais on verra dans l'émission de demain ou par la suite comment cette énorme arnaque sont les paradis fiscaux, en l'occurrence là l'évasion fiscale, a mis finalement, montre que la finance est dorénavant et depuis déjà pas mal d'années au-dessus des lois et des règles, quelque chose qui s'est totalement échappé du droit, si bien que ceux qui sont à l'intérieur de ce système sont tout éberlués quand on leur dit ces 600 milliards qui manquent à la France. Ils disent, bah, et alors de quoi vous parlez? La plupart sont inaccessibles, semble-t-il, à la tension morale qu'il peut y avoir dans un titre comme celui-là. C'est pas le cas de tous, et si Antoine Payon a pu faire son enquête, c'est que, il le disait à l'instant, des salariés à l'intérieur même du système, à l'intérieur même de la banque implantée en France au tournant de 1999-2000, ont compris ce qui se passait dans leur établissement et ne l'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté personnellement pour des questions, oui, tout simplement morales. Et c'est le cas de celui que nous rencontrons maintenant, dont nous, je ne pourrais pas donner le nom parce qu'il est en délicatesse avec sa direction, mais qui tient à parler. Sa voix a été déformée par l'équipe de la Basse-Jésus. Alors racontez-moi comment vous, à votre niveau, vous me racontez ce que vous pouvez me raconter étant donné la situation, votre situation. Comment vous avez découvert, comment vous avez révélé et les conséquences.
La découverte d'un tel système est souvent liée à une présence relativement forte auprès des collaborateurs qui travaillent avec vous et qui travaillent dans d'autres métiers. C'est justement parce que nous avions des fonctions transversales qui nous ont permis d'approcher d'autres métiers que le nôtre depuis la Suisse que nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il y avait des différences très nettes en termes de chiffres, de comptabilité et de transparence de ces chiffres entre ce qui était réellement produit et ce qui était réellement officialisé et déclaré par le groupe en Suisse. À partir du moment où vous décelez des écarts, vous êtes obligé d'enquêter. Et là où ça se corse, c'est quand les dirigeants que vous avez en face de vous reconnaissent la factualité et l'existence de ces écarts, mais ne sont pas en mesure de vous les justifier. Là, il s'agit d'intervenir. Nos départements étaient payés pour intervenir et nous sommes intervenus à de multiples reprises dans tous les coins de l'Europe. Mais fallait-il après que nos recommandations ou que nos révélations soient suivies des faits? Et le problème, c'est que nous sommes vite rendus compte que nos dirigeants, en nous faisant croire que les choses allaient être régularisées, continuaient et ne régulariseraient rien parce qu'il était vital pour le chiffre d'affaires de la banque que cette activité et ces activités perdurent. Donc, vous travaillez, vous vous investissez, vous faites, en respectant les lois et les règles, votre métier le plus correctement possible, vous donnez beaucoup de temps et de sueur à votre employeur, vous découvrez la réalité et vous êtes très rapidement marginalisé, voire exclu du système. Puisque vous êtes dans le système, vous êtes contre le système, mais il n'y a pas de position intermédiaire.
Vous en parlez à vos collègues, vous n'êtes pas le seul à avoir découvert le truc.
Bien évidemment, nous étions... Alors, c'est ce qui a fait, et c'est ce qui est en train de mettre à mal le système UBS ou de toutes les autres établissements qui pratiquent cette activité, c'est que quand vous le montez en puissance et que vous avez tendance à l'industrialiser, de plus en plus de monde sont au courant. Et cela peut générer un grand nombre de conflits. Et il se trouve que quand vous commencez à en parler autour de vous et que les commerciaux, qu'ils soient suisses, français, italiens, espagnols, vous disent tous la même chose, j'ai oublié les Allemands mais je pourrais aussi parler des Belges, c'est que vous ne vous trompez pas. C'était clairement un modèle mondial institutionnalisé et organisé par les plus hauts dirigeants de ces groupes, clairement. Donc vous vous retrouvez en face de vos patrons, de ceux qui vous payent. Et donc, comme ils ne peuvent et qu'ils ne veulent tempérer, c'est vous qui servez de disjoncteur et de fusible.
Licencié.
Licencié.
Dans quelles conditions? Vous avez eu des indemnités ou...
Je n'ai eu aucune indemnité.
Donc c'est mis à la porte.
On est totalement mis à la porte. Totalement. En l'espace de très peu de temps et pour des motifs totalement inadéquats avec la réalité des faits.
Vous auriez pu vous écraser, ne rien dire et puis continuer votre carrière en collaborant. Et j'aimais bien ce mot entre guillemets.
Il n'y a pas de collaboration possible dans la mesure où la machine vous détruit.
Vous subissez des pressions?
J'en ai subi, mais je n'en subis plus depuis que les enquêtes sont officiellement ouvertes et médiatisées.
Quel type de pression?
Nous avons fait l'objet de beaucoup d'observations, d'écoute. On est aussi, dans certains cas, quand des dossiers sensibles touchant à des circuits criminels ou pseudo-criminels, menaces ou avertissements. Donc, cela peut aller très loin.
C'est pour ça qu'en provenant de qui?
En venant des gens ou des dossiers que vous traitez et des gens que vous commencez à inquiéter. Parce que n'oubliez pas que derrière un compte, il y a un nom, que nous connaissons les noms, et quand vous commencez à devenir gênant, on vous le fait sentir.
Pression aussi du côté de votre, du côté du BS?
De très fortes pressions, il y a eu du côté du BS, oui.
Menaces?
Pas menaces, mais ce sont des conseils, de fortes recommandations, oui, de vives recommandations à aller voir ailleurs si on y est.
Vous avez pu rebondir, vous êtes grillé dans la profession maintenant. Vous êtes quand même un éminent conseiller financier. Vous avez réussi à rebondir.
Je n'ai pas réussi à rebondir. J'ai effectivement été totalement grillé car la place financière européenne, suisse ou autre est très petite et que quand vous êtes licencié, tout se sait. Et notamment, les motifs de ces licenciements se connaissent. Les groupes eux-mêmes qui licencient ont tout intérêt à communiquer pour vous démolir et vous empêcher de rebondir. Parce qu'ils savent très bien que le nerf de la guerre est l'argent. Ce sont des groupes surpuissants ayant de très nombreux cabinets d'avocats qui travaillent pour eux. Vous êtes seul avec vos petits moyens et c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc plus ils vous décrédibilisent, plus ils vous attaquent, plus ils font courir de multiples rumeurs sur vous, moins vous avez les moyens de trouver un emploi et donc moins d'argent pour pouvoir correctement vous défendre. Et il faut être très clair, nous ne pouvons plus travailler dans aucune grande banque internationale au regard des pressions et des propos qui ont été tenus sur nous.
Partez à la découverte de la Suisse et gagnez avec UBS un appartement de vacances pendant 2 ans. Procurez-vous la brochure 100 lieux exceptionnels à découvrir et la carte à composter. Disponible dans votre agence UBS.
Est-ce que y a quand même pas rien contre ça, hein? On a des contrôles, on a des douanes, on a toutes sortes de... On a des brigades financières en France, en Suisse, etc. Est-ce que certains de ces trafics, disons, ont été dénoncés et découverts?
Alors, tous ces trafics, bien évidemment, ont fait l'objet de dénonciations et de transmissions de l'information auprès de toutes les autorités étatiques compétentes, et ce, de longue date. Donc, le système est connu par tous les pays, qu'ils soient membres de l'OCDE, de l'Europe, ayant le passeport européen. La Commission européenne, ces derniers jours, concluait que l'évasion fiscale était un mal extraordinairement grave en temps de crise, puisque d'énormes recettes fiscales échappaient à tous ces pays qui sont en crise et qui ont un fort besoin de liquidités pour réduire leur endettement. Tous ces milliards et ces centaines de milliards d'euros ou de dollars qui sont partis dans les paradis fiscaux sont clairement liés macroéconomiquement à la dégradation des économies nationales de tous ces pays. Prenons un exemple, l'Espagne, la Grèce, l'Italie seraient dans des situations bien moins graves qu'ils connaissent en ce moment s'ils avaient plutôt lutté contre l'évasion fiscale au sein de leur propre pays. C'est une évidence. Quand vous regardez ce que cela représente en termes de points de croissance, de points de PIB, c'est énorme. Ce sont des sommes démentielles qui ont quitté la France ou les autres pays européens et qui ont clairement manqué au fisc français pour asseoir sa politique budgétaire.
Donc, la lutte contre les déficits publics, la crise de la dette publique, la solution, elle est là. Enfin, ou une partie de la solution est là.
Bien sûr, il est bien évident que laisser perdurer un tel système appauvrit l'ensemble des pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement, dans la mesure où ce sont des recettes fiscales qui échappent totalement au développement de ces pays-là.
Tout ça se fait au détriment des économies et donc des budgets. Et donc, par exemple, ce qu'on voit en Espagne actuellement, puisque vous citez l'Espagne, des coupes sombres dans les budgets de l'éducation, de la santé, du bien public en général.
Bien évidemment. Vous le mesurez effectivement à travers l'impact de la crise économique que traverse l'Espagne ou la Grèce et même l'Italie. Donc c'est maintenant devenu le nerf de la guerre. Et les politiques réagissent maintenant parce que dans un système économique extrêmement dégradé dans lequel nous vivons, il est urgent de faire revenir sur le territoire national ces richesses pour qu'elles participent à l'effort de développement des pays. Et si vous voulez, au réinvestissement et au redéveloppement de nos industries nationales. C'est une évidence. Tout cet argent qui manque se fait aussi au détriment de l'emploi et au détriment des sociétés ou au plan d'État de relance. Se passer de 15 à 17 milliards régulièrement, ça devient injouable.
On est un peu étonné que ça n'ait pas été un enjeu dans cette campagne présidentielle en France quand même. Ça pouvait être un bel enjeu. À cause de ce que vous venez de dire. Par rapport, on va vers des plans de rigueur, l'Union européenne va nous imposer des plans de rigueur, c'est plus que certain, hein. Ça aurait pu être un enjeu.
C'est effectivement un enjeu, mais cet enjeu est tellement...
Plutôt que de discuter de la viande halal ou du permis de conduire.
C'est très clair, c'est un enjeu fondamental, car vous aurez remarqué que tous les États en crise, et quel que soit leur gouvernement, ont fait beaucoup de réformes, mais ils en ont oublié une, la réforme de leur fiscalité nationale. Le seul pays à avoir mené cette réforme fiscale à peu près de profondeur est M. Barack Obama aux États-Unis. Il est le seul à avoir pris ce risque-là. Il rentre lui-même en période électorale. On ne sait pas ce que les électeurs américains lui réserveront, mais il est clair qu'il est le seul chef d'État à avoir engagé cette réforme fiscale qui avait pour but de faire revenir les fonds américains expatriés, évadés ou non déclarés. Et d'ailleurs, il mène une lutte sans merci à la Suisse, ayant imposé récemment de se faire livrer les noms des clients, les sociétés qui ne joueraient pas le jeu, puisqu'il se destine à sortir des textes légaux extrêmement contraignants à l'échelle mondiale, qui, en cas de non-respect, feraient que les banques étrangères, quelles qu'elles soient, perdraient leur licence sur le territoire américain s'ils ne participent pas à l'effort de financement de l'économie américaine.
Donc on a les moyens, on sait faire si on veut.
On sait faire, on sait qui sont les gens qui le font, où ils sont, dans quelle banque ils sont. Cela ne fait de mystère pour personne. Et il s'agit d'une véritable volonté politique d'y aller ou pas. C'est tout.
Merci. Demain, la suite. Il existe une commission d'enquête sur l'évasion fiscale au Sénat. Tout de même, et nous en parlerons demain, entre autres, 600 milliards qui manquent à la France. Le bouquin d'Antoine Payon est sort au Seuil. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez. Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, vous l'avez entendu. Il est 16h, passé de quelques secondes sur Inter. À demain, 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Un an après la mort d'Oussama Ben Laden au Pakistan lors d'une opération commando menée par les États-Unis, Washington publie aujourd'hui 17 documents récupérés chez le chef d'Al-Qaïda. Ces documents font en fait partie de milliers récupérés dans sa résidence à Abbottabad. Il s'agit de lettres dont Ben Laden était l'auteur ou le destinataire entre 2006 et 2011. Et dans l'une d'entre elles, on apprend que Ben Laden s'inquiétait des victimes inutiles d'Al-Qaïda. Voilà qui conforte aujourd'hui le projet européen de François Hollande, décliné encore hier lors du débat avec Nicolas Sarkozy. Le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a déclaré qu'il n'y avait pas de contradiction entre le pacte budgétaire pour redresser les comptes publics en Europe et un pacte de croissance basé sur des réformes structurelles. Depuis plusieurs jours, les appels en ce sens se multiplient un peu partout dans l'Union Européenne. Mario Draghi exclut en effet une relance par la dépense, mais il préconise de faciliter les activités des entrepreneurs. Alors, au lendemain du débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, les critiques à droite continuent de pleuvoir sur le candidat socialiste. En meeting à Castres, dans le Tarn, cet après-midi, François Fillon a accusé François Hollande de s'être monté hautain et dédaigneux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui a selon lui combattu la pire tempête économique et financière depuis un siècle. Le candidat socialiste propose selon lui une France déprimante. On verra d'ailleurs ce qu'en dit ce soir de son côté le président candidat, puisqu'il est en meeting au Zénith de Toulon. François Hollande, lui, sera place du Capitole à Toulouse. Pendant que certains sont donc en plein dans la campagne d'entre-deux-tours, d'autres ont déjà la tête aux législatives. Au Front National, on se met d'ailleurs en ordre de bataille. Les deux directeurs de campagne de Marine Le Pen pour la présidentielle, Louis Alliot et Florian Philippot, ont été nommés aujourd'hui porte-parole du FN pour ces législatives. À l'étranger, le bilan de l'attaque à l'explosif sur un marché au Nigeria s'est alourdi cet après-midi. Il est de 56 morts. La police du Nigeria soupçonne la secte islamiste Boko Haram d'être à l'origine de la fusillade. Retour à la case justice pour le contentieux entre eBay et LVMH. La chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé en partie aujourd'hui la condamnation du site de vente aux enchères pour contrefaçon de produits LVMH. En septembre 2010, la Cour d'appel de Paris avait condamné eBay à près de 6 millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir vendu des produits contrefaits Louis Vuitton et Christian Dior ainsi que des parfums. La réponse du berger au berger. On apprend aujourd'hui que la Société Générale a déposé plainte lundi pour dénonciation calomnieuse contre Jérôme Kerviel. Une réponse en fait à celle déposée par l'ancien trader de la banque pour escroquerie au jugement et faux et usage de faux. Plus de 400 à Bordeaux, 200 à Lyon. Nouvelle manifestation de policiers aujourd'hui en soutien à leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire après la mort d'un délinquant multirécidiviste le 21 avril dernier à Noisy-le-Sec, en région parisienne. Les policiers dénoncent tous le chef de mise en examen, homicide volontaire. Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail. Le trafic des bateaux de la SNCM entre la Corse et le continent continue d'être perturbé aujourd'hui. Les marins CGT ont en plus reconduit leur mouvement. Ils réclament l'application des mêmes lois sociales pour toutes les compagnies de navigation. Vous écoutez France Inter, 16h03.
En Auvergne, un nouveau volcan explose. 2012, Vulcania fête 10 ans d'aventure. Survolez un volcan démesuré. Affrontez la fureur des dragons. Vibrez à la beauté du monde. En 2012, Vulcania fête ses 10 ans, mais c'est vous qui allez être soufflé. Vulcania en Auvergne, l'aventure de la Terre.
Entrée, hôtel et petit déjeuner à partir de 34 euros par personne. Conditions sur vulcania.com.
France Inter, partenaire de l'exposition Les Maîtres du Désordre au musée du Quai Branly jusqu'au 29 juillet. Chamans, sorciers ou artistes d'avant-garde, les Maîtres du Désordre sont les intermédiaires entre les forces du chaos et le monde des hommes. Plongez dans leur univers fascinant, entre voyages cosmiques et fêtes transgressives. L'exposition met en scène près de 350 œuvres issues des grandes collections anthropologiques, mais aussi des œuvres modernes et des installations d'artistes contemporains. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Merci Laetitia Gaillet. À plus tard, à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, il y a des musiciens qui ont eu une vie très très courte, on parle souvent de Schubert ou de Mozart, mais voici Hyacinthe Jadin, lui c'est 24 ans seulement, emporté par la tuberculose, il était né à Versailles d'un père bassoniste originaire de l'actuelle Belgique, il avait quelques frères musiciens, ils ont échappé à la révolution et c'est la tuberculose qui fait le mauvais boulot. Et finalement, quelques belles œuvres quand même de Hyacinthe Jadin, qui était pianiste et forcément compositeur, donc il a été concertiste, vraiment il jouait très très bien. Il a écrit des fantaisies très populaires pour piano, inspirées d'opéra, ainsi qu'une pièce un peu fameuse, pas tant que ça quand même, Romance à la Lune. Et ben voilà, Jean Dubé, pianiste, a eu la bonne idée d'enregistrer 6 sonates pour le piano de Hyacinthe Jadin. Voici une qui est en do majeur, Allegro poco presto. Thank you. Allegro poco presto, pas trop vite donc, mais bien énergique, quand même, de la troisième sonate pour le piano, la troisième sonate de l'opus 3 de Hyacinthe Jadin, qui n'a pas eu vraiment beaucoup de temps pour écrire. Mais enfin, c'est frais, c'est vivant, c'est sympathique et assez virtuose quand même, et l'interprétation était due à Jean Dubé. Autre compositeur qui a connu la Révolution française, c'est François-André Danican Philidor, né en 1726 et décédé en 1795 à Londres, mais en fait, il ne s'est pas échappé de France pour éviter la révolution, c'est pas franchement ça qui s'est passé. C'était un joueur, voilà, l'histoire c'est que c'était un type très aventureux, poursuivi pour dette, qui a été contraint de fuir en